Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Radio Foot. L'objectif du jour, c'est de conclure en beauté les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Deux affiches et une belle soirée football au programme sur RFI. Une soirée sous le signe de l'élégance, on l'espère en tout cas, l'élégance de Zidane, l'élégance de Guardiola, deux des entraîneurs les plus impressionnants de leur génération. Ils ont beaucoup de choses en commun, à commencer par leur calvitie. Ils s'affrontent pour la première fois sur les bancs de touche ce soir à Madrid. Le Real reçoit Manchester City. L'élégance, c'est aussi celle de la vieille dame, la Juventus Turin, en déplacement à Lyon, suivie par ses supporters dans un contexte très particulier, celui de l'épidémie du nouveau coronavirus qui sévit dans le nord de l'Italie. Nous ferons le point dans quelques minutes avec notre envoyé spécial à Lyon, Christophe Diremzian. L'élégance dans Radio Foot, c'est aussi et surtout celle de nos consultants. Élégance vestimentaire, mais pas que. On peut même parler de classe en ce qui vous concerne. Philippe Doucet, bonjour.
Merci, il n'y a pas de caméra, dommage.
Parce qu'en plus, vous avez vraiment fait un bel effort vestimentaire.
Un bel effort,
veste,
je pensais que c'était filmé à moi.
On laisse les auditeurs et les auditrices, bien sûr, s'imaginer. Bonjour, Franck Simon.
Bonjour Hugo, ouais, je suis sous le charme.
Grande classe.
Ouais, pareil.
Grande classe,
hein. Tu as vu, j'ai ma polaire habituelle.
Bonjour Salim Bamgali.
Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous.
Vous, c'est l'élégance british.
Oui, oui, sans doute.
On accueillera peut-être Alejandro Valente tout à l'heure, à moins qu'il se cache quelque
Est-ce
part.
Est-ce qu'il osera parler du Barça et du jeu indigent du
peut-être
Barça.
Peut-être qu'il n'ose pas parler
ça, de
son Barça. Son Barça qui a été bousculé hier, mais qui tout de même est revenu de Naples avec un point dans les valises. Et mine de rien, c'est un plutôt bon résultat avant le match retour. Mais que dire du Bayern qui a roulé sur Chelsea à Londres. Nous reviendrons bien sûr sur ces deux rencontres de la veille. Merci à l'équipe de Radio Foot qui œuvre en coulisses. Pierre-Olivier Guérin, le préparateur, Laurent Salerno, le réalisateur. C'est parti. Mais avant de débuter, quelques mots et beaucoup d'affection à l'adresse de notre ami Olivier Pron. Il devait commenter le match entre Lyon et la Juventus ce soir, mais il sera auprès des siens, sa famille ayant été touchée par un deuil. On pense fort à lui.
Centre pour Cristiano Ronaldo.
Dybala.
Le coup de génie.
Titi Buffone ravi. Gonzalo Higuain. Première occasion. C'est qui? C'est Cristiano. Mais oui, mais bien sûr.
Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain qui offre ce succès, ce quasiment carton plein dans ce groupe D à la Juve qui termine en tête.
On joue un huitième de finale de la Champions League contre la Juve. Il faudra qu'on soit à 100%, motivé, transcendé. Est-ce que c'est motivé? Oui, certainement, les joueurs le seront. Si on fait que défendre, on va pas gagner le match. Par contre, il y a un élément important, c'est qu'on va être chez nous, on va être devant notre public. On va s'aider de ce 12e homme pour trouver des ressources, des forces. Et puis, il faudra qu'on soit au top dans tous les domaines, mental, tactique, technique et physique.
Lyon, Turin, les Alpes et effectivement une sacrée montagne à gravir pour Rudy Garcia et son Olympique Lyonnais. La Juve, c'est un très grand d'Europe. Il faudra une grande soirée européenne donc pour que Lyon réalise un exploit. Le problème, c'est que le contexte n'est pas forcément idéal. Le nord de l'Italie est touché par l'épidémie du nouveau coronavirus. Or, Turin se trouve dans le nord de l'Italie. L'Italie qui est le pays européen le plus touché. Et la présence de supporters turinois à Lyon ce soir, eh bien, elle pose question. Bonjour Christophe Diremzian.
Bonjour Hugo, bonjour à tout le monde.
L'envoyé spécial de RFI, c'est votre voix qui nous fera vivre cette rencontre OL Juventus-Turin sur les antennes de RFI, de la Radio du Monde. Ce soir, près de 3000 supporters italiens attendus à Lyon. Ce soir, vous confirmez, ils seront bien là?
Oui, normalement, effectivement, ils sont déjà en grande partie arrivés tout au long de la journée. Dès hier soir, d'ailleurs, il y avait déjà un certain nombre de supporters turinois qui étaient dans le quartier de la Part-Dieu. C'est le quartier du 3e arrondissement de Lyon. Et normalement, en principe, ils devraient effectivement être là, puisque aucune interdiction administrative de déplacement ou même d'entrée en France n'a été dictée par les autorités françaises, donc il n'y a aucune raison qu'ils ne viennent pas. Et en principe, tout devrait bien se passer, d'autant que quand même, et on l'a su d'ailleurs cet après-midi, de la part du ministre de la Santé, Olivier Véran, il y aura quand même de précaution Van Buchen, des messages d'information écrits et oraux par l'intermédiaire des speakers du Groupama Stadium qui évidemment mettront en garde les supporters tirrenois s'ils ont pour certains des symptômes avec les réflexes habituels, c'est-à-dire appeler les services d'urgence et évidemment prévenir toute autorité compétente en la matière. Mais pour l'instant, depuis hier, tout se passe très bien, aucune psychose. Parfois de l'inquiétude dans les commerces du centre-ville de Lyon où on a peut-être un peu d'appréhension par rapport à tout ce qui peut se passer en termes d'afflux de supporters italiens. Mais hier, tout s'est très très bien passé et du côté, tant du côté de l'OL qu'évidemment du côté du Milan AC, il n'y avait aucun impact attendu de cette épidémie de coronavirus sur la préparation de cette équipe. On l'a entendu d'ailleurs hier de la bouche de Rudy Garcia. Lui, il n'est absolument pas inquiet de ça. Quand on lui a posé la question s'il était inquiet, il a répondu d'un laconique et assez cinglant non. Maurizio Sarri, lui, a été plus agacé, non pas par la polémique en général, mais surtout par le fait que deux élus régionaux, deux maires de Décines et de Meyzieu, qui sont les communes où se situe le stade de l'OL, ont demandé purement et simplement que ses supporters italiens ne viennent pas. Lui a répliqué que c'était un problème européen, c'était un problème italien, dont il fallait évidemment tenir compte, mais il n'y avait aucune raison que les supporters italiens soient privés de ce déplacement. Il a même adressé une petite pique au passage en disant qu'il y avait davantage de contrôles qui avaient été effectués en Italie, donc forcément plus de cas de coronavirus détectés, et que si la France en avait fait autant, bah peut-être qu'il y en aurait davantage, et que dans ces conditions, on ne sera pas tout à fait la même situation. Mais pour l'instant, donc, pas de psychose, tout devrait bien se passer et pas d'alerte particulière mise en place ce soir par les autorités sanitaires.
Vous parliez de la réaction de Rudy Garcia interrogé sur ce problème. On va l'entendre justement, l'entraîneur de Lyon, à votre micro, Christophe Diarmesan.
Je ne sais pas quoi vous répondre à ça. Moi, je suis focalisé sur le terrain. Évidemment que y a des gens spécialisés qui s'occupent de ce sujet, qui est un sujet grave, mais... Mais voilà, il faut laisser aux personnes qui sont habilitées le soin de s'en occuper, que ce soit au club ou bien évidemment surtout en dehors du club, puisqu'il se dit pas mal de choses, on verra ce qu'il en est, de savoir si les supporters de la Juve peuvent venir ou pas. Mais nous, on est focalisé sur la préparation du match et sur le terrain, pas sur autre chose.
Pas franchement inspiré par la question du coronavirus, Rudy Garcia. Philippe Doucet, ça vous inspire quoi, la présence des supporters italiens ce soir?
Je suis comme Rudy Garcia, je ne veux pas forcément être très inspiré, j'ai pas beaucoup de références sur le sujet. S'il y a des sujets médicaux, que ce soit traité par des médecins et autres, c'est pas nous qui allons décréter aujourd'hui qu'ils sont malvenus, que le nord de l'Italie, c'est un territoire tellement petit que tout le monde se connaît forcément, et donc c'est la moindre présence d'un Italien serait très malvenue. J'ai entendu des slogans contre Naples l'autre jour. Oui, quand on connaît un peu l'Italie, entre Naples et le nord de l'Italie,
il y a un petit écart.
Je crois que les effets de psychose sont parfois un petit peu dramatiques. On le vit souvent en Afrique, vous savez, quand il y a une guerre dans un coin de l'Afrique et qu'on dit, ah ben je vais là-bas bientôt. On est obligé de rappeler que c'est à 8000 km et que peut-être qu'on n'est pas absolument aux portes du conflit, quoi.
Ouais, il faut de la nuance, évidemment, sur ces sujets. Il y a quand même un impact, hein, en Italie, en Coupe d'Europe, et il y a cette polémique autour du match. On peut pas faire abstraction. Oui. On est obligé d'en parler ici même, et on est obligé d'en parler tout court.
Je rappelle juste que ce jeudi, il y a un match d'Europa League entre l'Inter et Ludogorets, et ce match se jouera à huis clos, parce que, justement, on ne veut pas rassembler trop de monde dans un même lieu. Dimanche, il y a juste Juventus-Inter. Alors, ça n'avait pas été officialisé, puisque officiellement, on peut encore acheter des places sur le site de la Juventus pour ce match-là, pour ce grand choc de Serie A, mais après cela va être acté et il va se jouer à huis clos aussi. Donc oui, il y a quand même des conséquences en Italie, et c'est vrai que entre guillemets, en France, c'est vrai que c'est ce qui est la perception est de voir que en Italie, ça a l'air d'être évoqué, d'être réalisé, en tout cas ces tests et autres tracks de, j'ai envie de dire, de ce coronavirus. Maurizio Sarri en a parlé, et c'est vrai qu'en France, on a une autre impression. En tout cas, on a l'impression que c'est beaucoup plus laxiste. C'est peut-être ça la différence de perception qui gêne, et en tout cas qui fait que dès qu'on voit un Italien, attention, il y a des Italiens qui vont venir, on a peur. Non, il y a d'autres manières de faire les choses, de gérer ce problème là-bas.
Allez Franck, une dernière réaction, on va refermer la parenthèse coronavirus.
Ma réaction, c'est un peu celle de mes collègues, à savoir que on l'a bien compris, et c'était dans le quotidien L'Équipe de ce matin, sous la plume de Vincent Duluc. En fait, le sport de haut niveau n'échappe pas, en fait, la vraie vie n'échappe pas à ces à ce type de soucis. Et pour moi, les enjeux en fait de cette traque du coronavirus sont bien plus importants qu'un match de football.
Bien
sûr. Si vous voulez mon avis. Voilà. Après, on est heureux et on va parler football maintenant, mais les enjeux sont énormes et ils sont considérables, et pas seulement pour maintenant, mais pour l'avenir. Donc évidemment qu'on est tous tournés vers ce qui se dit, et on espère évidemment que les gens qui sont chargés de trouver des remèdes, des solutions, vont avoir les moyens pour le faire, quoi. On est à l'écoute de tout ça, bien sûr.
Et juste, je me permets de prolonger votre propos. Quand on voit qu'en rugby, autour de la destination, le match Irlande-Italie a été reporté, il devait se disputer début mars, mais il était reporté pour cause de virus, mais on se dit qu'il y a d'autres sports qui le font. Le foot le fait pas ou pas vraiment. C'est ça, quand on est loin, quand on ne connaît pas précisément le dossier, ce qui est mon cas, du coronavirus, on se dit, ah, c'est étonnant, d'autres sports font et pas le foot. Après, là encore, on n'est pas complètement dans le dossier, je ne le connais pas, le coronavirus, comme beaucoup de gens.
Alors, refermons la parenthèse, le football, vous l'avez rappelé, Franck, n'est que le football, mais c'est ce qui nous intéresse ici. Christophe Diremzian à Lyon, pas de psychose, on l'a compris. L'heure est-il pourtant à l'optimisme, à l'enthousiasme côté lyonnais avant de recevoir un très grand d'Europe, la Juventus Turin?
On aimerait le croire, Hugo, mais honnêtement, pour l'instant, c'est un petit peu mal parti. Parce que d'abord, il faudrait savoir de quel OL on parle. Parce que l'OL, depuis le début de saison, c'est quand même très inconstant. Et on n'arrive pas à trouver la véritable match référence qui ferait qu'on puisse se montrer assez optimiste face à une équipe aussi rodée et expérimentée que la Juve. Alors, peut-être que des matchs à élimination directe, comme les matchs de coupe, ont mieux réussi à l'OL ces derniers temps. Mais est-ce qu'on peut faire une vraie comparaison entre un match de coupe de la Ligue ou Coupe de France et un match de Ligue des Champions face à une équipe telle que la Juve, d'autant plus qu'on le rappelle, l'OL n'a encore jamais battu la Juve en Ligue des Champions après 3 victoires et un nul côté Juve. Donc ça paraît un petit peu compliqué. Alors on peut toujours se raccrocher au miracle, au grand match, au super match, au match référence que les Lyonnais seraient inspirés de faire ce soir. Mais il va falloir vraiment que cette équipe vraiment fasse le maximum et fasse une prestation telle qu'on n'en a pas vu depuis le début de saison. Dans ces conditions, peut-être qu'effectivement, ils arriveront à tenir le choc, au moins dans l'optique du match retour. Jusqu'à présent, ça paraît un petit peu compliqué à croire, mais enfin bon, sait-on jamais si Rudy Garcia a la recette ce soir pour essayer de battre les expérimentés Dybala, Cuadrado et puis surtout évidemment Cristiano Ronaldo. Bah, on veut bien prendre la recette, mais bon, l'optimisme n'est pas encore forcément de mise ce soir.
Vous nous la livrerez, la recette, tout à l'heure. Vous nous la raconterez, en tout cas. Mon cher Christophe Diremzian, vous commenterez donc ce match entre Lyon et la Juventus Turin sur les antennes de RFI. Je précise, hein, la Juventus Turin, non pas le Milan AC, ça vous a échappé tout à l'heure, mais ça arrive. Merci en tout cas à Christophe et à tout à l'heure. On va donc revenir au football, au jeu. Comme prévu, il ne faudra pas que défendre. C'est ce qu'a déclaré Rudy Garcia. Il faudra quand même un petit peu défendre face à cette Juventus Turin, mon cher Philippe Doucet. Il faudra notamment défendre contre un certain Cristiano Ronaldo. L'OL peut-il tout simplement contenir le joueur portugais? Enfin, je dis joueur, c'est bien plus qu'un joueur à ce niveau-là.
Oui, non, bien sûr. C'est une des interrogations. Il y en a beaucoup. Dernièrement, on a d'abord des interrogations sur l'OL lui-même, sur la capacité de cette équipe à faire un grand match, parce qu'elle l'a pas fait souvent. Elle est à la fois irrégulière, mais un peu plus qu'irrégulière cette saison. Elle a fait très peu de matchs. De haut niveau, quoi. Elle a fait très peu de matchs qui ressemble à quelque chose de haut niveau. Donc on se dit toujours qu'elle en a la capacité. Il y a un certain nombre de joueurs qui nous paraissent de nature à, mais à force de pas le voir, on est forcément en doute. Et bon, j'écoutais Rudy Garcia. Évidemment, il faudra un OL tel qu'on l'a pas vu justement jusqu'alors pour que la Juve soit en difficulté, même si la Juve n'est pas si impressionnante que ça tous ces derniers temps. Quand je dis ces derniers temps, c'est même depuis plusieurs mois. C'est une équipe qui n'impressionne pas forcément. Enfin, quand tu as douté de sa capacité le jour J à faire le match qu'il faut en fonction de l'adversaire, juste le petit plus qu'il faut pour mettre à mal l'adversaire, on sait qu'ils en ont la capacité, évidemment.
Et j'y reviens, Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de la Ligue des Champions, voilà. C'est souvent ce petit plus.
C'est plus qu'un petit plus, voilà. C'est que la Juve, oui, peut se rehausser à ce niveau de la compétition, les matchs à élimination directe. Et puis surtout, Cristiano Ronaldo, il est de loin le meilleur buteur lors de cette phase à élimination directe. Donc quand vous avez Cristiano, et on le sait en ce moment, sur les dernières semaines, il ne cesse de marquer et de montrer qu'il est bel et bien là en 2020. Enfin, pardon, Lyon va devoir défendre sur un surhomme, comme d'habitude, et ses coéquipiers en plus.
Mais du coup, l'OL a-t-il les joueurs, l'organisation, la discipline tactique pour défendre sur ce surhomme, Franck Simon ?
J'en appelle un peu à vos souvenirs assez récents, et notamment sur une période, une première mi-temps contre le Paris Saint-Germain, où j'avais vu des choses très intéressantes sur cette rencontre. On avait vu bien sûr les faiblesses récurrentes du moment du Paris Saint-Germain, mais c'est pas le propos d'aujourd'hui. En revanche, on avait vu un Noël, moi, que j'avais trouvé vraiment bien organisé, qui s'était justement haussé au niveau du Paris Saint-Germain et qui leur avait tenu la dragée haute. Donc ce qu'il s'agit de faire, c'est effectivement de retrouver un petit peu ce qu'ils avaient su faire, mais pendant un laps de temps assez restreint, et malgré tout quand même de bien défendre, parce que ne pas encaisser de but ce soir, pour moi déjà ce serait un exploit. Si tu repars avec si tu finis la soirée
0-0,
c'est pas si mal que ça avant de se déplacer
dans
le Piémont.
Lorsqu'il y avait eu le 8e de finale face au Barça, il y avait eu 0-0 à l'aller, et c'est vrai qu'on était plutôt ravi de pas concéder de but face à Messi et Co. Bon, au final, il y avait eu 5-1 au retour pour le Barça. Mais déjà, réussir effectivement à ne pas prendre de but, ce serait un petit exploit, vu la période actuelle, vu les critiques qui tournent autour de ça.
Et leur perméabilité aussi. Hein. Ils prennent quand même pas mal de buts. C'est aussi l'un des soucis qu'on a noté, tu vois. Donc, du coup, moi, je me dis, s'ils arrivent à ne pas encaisser, ça, c'est un préalable. Ça serait, je pense, une bonne chose. Parce que en appeler à un exploit et tout ça, honnêtement, je suis peut-être comme vous, j'y crois pas du tout. Il n'y a pas l'exploit. L'exploit, ça peut être au retour sur le sol italien, pourquoi pas. Ce soir, déjà, arriver à les contenir, ça serait déjà faire la moitié du chemin.
Plus globalement, Lyon va négocier un virage important, va commencer même à négocier un virage important. Il va durer presque un mois, ce virage. Après, la Juve à domicile ce soir, Saint-Etienne puis Paris rendront visite à l'OL ces prochains jours. Ça veut dire un derby brûlant en championnat suivi d'une demi-finale de Coupe de France, c'est pas rien. Derrière, il faudra aller à Lille, recevoir Reims, se rendre à Turin, puis se rendre à Rennes. Enfin, il y aura une finale de Coupe de la Ligue contre le Paris Saint-Germain. Voilà, ça nous amène jusqu'au début du mois d'avril. C'est clairement dans ces prochaines semaines que se joue la saison lyonnaise. Pour l'instant, elle est plus que moyenne. En championnat, l'OL est actuellement 7e à 7 points du podium, qui est son objectif
prioritaire. Vous savez, Jean-Michel Aulas vous dira qu'il est le seul club à être sur les 4 tableaux, etc.
Mais alors justement, on peut le retenir, cet argument. Effectivement, l'OL peut vivre une fin de saison assez incroyable, mais là, ça va jouer sur quelques matchs. On peut
ils ont du
tout
monde
gagner,
sur le
entre guillemets, surtout tout perdre.
J'ai l'impression qu'ils ont un peu de monde. Après, oui, je parle pas de la qualité de l'effectif, mais il y a du monde.
Je pense que c'est moins un problème de calendrier. Enfin, Hugo donne le calendrier à raison, mais c'est pas un problème de calendrier. C'est un problème de moment psychologique dans la saison qui est déterminant. C'est-à-dire que si tout d'un coup, vous perdez ce soir, que vous perdez mercredi la finale de la Coupe, c'est-à-dire tout d'un coup, c'est le vide. C'est ça, c'est assez terrible pour une équipe de se dire bon là ça va encore, j'ai encore plein de choses, etc. Puis tout d'un coup le vide. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que ah oui mais là c'est fini. Si je suis encore septième, je peux encore éventuellement me battre pour le championnat, mais il restera rien quoi. Ça file à une vitesse folle. En une semaine, vous pouvez tout d'un coup avoir ce vide devant vos pieds. Donc évidemment les Lyonnais vont lutter contre ça. Il faut qu'ils luttent contre, mais malheureusement, de toute façon, Lyon n'est pas le Bayern, n'est pas la Juve ou autre. On sait qu'ils vont pas jouer sur les 4 tableaux jusqu'au bout. Ça n'arrivera pas. Donc, il faut se préparer à ça, tout en étant vaillant, mais il faut se préparer à ça quand même, parce que sinon, après le vide, il attire dangereusement.
Cette OL-là a-t-il les ressources, tout simplement, pour ne pas repartir complètement fanny de ce marathon-là qui l'attend, et ne pas conclure une saison catastrophique.
Je rappelle juste, pardon, Franck.
Ils vont pas gagner la Ligue des Champions, vous êtes en
courant. Non, néanmoins, ils peuvent peut-être gagner une coupe, au moins le podium. Ouais, le podium, c'est vraiment l'objectif prioritaire.
Je rappelle quand même qu'il y a quand même juste le meilleur joueur de Lyon qui n'est pas là. Même fils de paille, c'est pas anodin. On se souvient de son attitude de capitaine qu'il a eu lors de la première phase de poule, et notamment lors du dernier match quand même, la manière dont il a permis à Lyon d'obtenir son nul et donc cette qualification. Lui qui soit pas là, c'est quand même un manque. On parlait de Cristiano Ronaldo, je suis pas en train de dire que c'est Cristiano Ronaldo, mais c'est le joueur essentiel de l'attaque. Franck, à juste titre, dit il faut pas concéder de but, on est d'accord, faut quand même essayer si on peut d'en marquer aussi. Moussa Dembélé essaie de faire de son mieux aussi. Il a quand même à 20 buts toutes compétitions confondues cette saison, mais ça reste en deçà d'un Memphis Depay.
Oui, qui en plus a été décisif, Memphis Depay, dans cette Ligue des Champions, Franck Simon.
Ouais, pour évoquer quand même l'entraîneur, Rudy Garcia, qui, soit dit en passant, a plus de matchs en C1 que son homologue, Maurizio Sarri. Mais il n'en a pas gagné autant. c'est à lui de concerner le maximum de joueurs. Pas forcément soir, mais dans toutes les compétitions. Donc c'est de la gestion humaine. C'est dire attention, bon, toi, j'aurais besoin de toi pour le prochain, toi, etc. Donc il faut que tout le monde se sente concerné par ce programme, sachant qu'effectivement, à un moment donné, eh ben, on va tirer un trait sur deux compétitions, peut-être trois, bah, parce qu'on aura été éliminé et battu. Mais le but du jeu, quand on est comme ça technicien et meneur d'hommes, c'est de concerner un maximum de joueurs. Il y a des absents, tu as cité Depay, moi je pense aussi à Reine Adélaïde, qui est un joueur qui a été un transfert important.
Plus en devenir,
mais dont on sent effectivement qu'il peut voilà, devenir un joueur important.
Elle est rapidement sur Lyon pour en terminer avec l'OL. Au-delà des forces ou faiblesses sportives, il y a un contexte de défiance vis-à-vis du Rudy Garcia. C'est pas le grand amour avec les supporters, c'est moins que l'on puisse dire. Ça peut peser là dans cette période qui attend l'OL et dans le grand rendez-vous de ce soir notamment.
Sur des grands rendez-vous comme ça, non. Parce que là, tout le monde est, à titre provisoire en tout cas, complètement rassemblé. Parce que vous êtes le petit, vous allez affronter la Juve, c'est un combat le normal.
Vous maintenez, Lyon ne gagnera pas la Ligue des Champions.
Non, je maintiens. Oui,
on garde la bande tout de même.
Absolument. Bon, je vous aurais pas dit l'année dernière que Tottenham irait en finale. Il y a parfois des surprises, mais il y a des
là,
limites. Il y a souvent des limites, et là, je pense qu'elles sont atteintes.
Alors, on va écouter Maurizio Sarri. Vous en parliez. Je réceptionne votre passe décisive, mon cher Franck Simon. Maurizio Sarri, l'entraîneur de la vieille dame de la Juventus, qui nous parle de son adversaire du soir, l'Olympique Lyonnais. Il n'a pas franchement grand chose de retentissant à en dire.
Nous allons faire face à une équipe dangereuse dont le seul tort cette saison est d'être irrégulière. Mais on ne peut pas miser là-dessus parce que ce mercredi, ils joueront bien. C'est une équipe très technique, avec deux ou trois joueurs dotés de grandes qualités techniques et deux ou trois très physiques, avec de grandes accélérations. Ça va être un match très dangereux, mais c'était inévitable à ce stade de la Ligue des Champions. D'où la nécessité de faire une prestation de haut niveau, sinon ça pourrait mal se passer.
Voilà pour les généralités de Maurizio Sarri sur Lyon. On imagine qu'il a préféré se concentrer sur son équipe. Vous en parliez, Philippe Doucet, la Juventus peut-être moins impressionnante cette année que les années précédentes, cette saison. Par rapport aux saisons précédentes, elle domine tout de même la Serie A, comme d'habitude, mais avec une marge assez faible. Un point d'avance sur la Lazio actuellement. Fait-elle toujours partie des favoris pour la victoire finale en Ligue des Champions? Fait-elle toujours partie? Est-elle toujours dans la cour des très grands Européens, Franck Simon?
Je le pense. Même si, effectivement, elle n'écrase pas sa Serie A, c'est le moins qu'on puisse dire, avec la Lazio qui la talonne, avec l'Inter qui est toujours dans le coup. Mais on peut imaginer aussi que, voilà, ils sont moins dominateurs parce que c'est aussi un effectif qui est vieillissant. Et puis certainement aussi qu'ils ont cette envie d'aller chercher une compétition après laquelle ils courent depuis plusieurs décennies. Ça peut compter à un moment donné quand on est concerné sur plusieurs tableaux, mais ça n'enlève rien à la valeur en fait du groupe. Et puis c'est un groupe en plus qui est transcendé par Cristiano Ronaldo.
C'est une bonne galie. Philippe Doucet, un avis? Vous étiez en train de regarder vos téléphones.
Je regardais surtout par rapport à la Juve. J'avais un doute par rapport à la défense, en fait, de la Juve, des chiffres de
Chiellini n'est pas rentré. Hein.
Mais non, mais c'est un peu. Aujourd'hui, c'est le seul souci par rapport à ça, c'est de voir une défense qui est quand même qui reste friable. On l'avait encore ce week-end face à Spal aussi, malgré une victoire de 2-1. C'est là où peut-être Lyon peut éventuellement jouer et essayer de. J'insiste. Enfin, je me vois mal vous dire à l'antenne devant tous les auditeurs qui nous écoutent que la Juve ne m'a pas marqué ce soir.
Lâche-toi, Salim. Lâche-toi. Dis-moi.
Non, la Juve marquera ce soir.
Bon, on garde la bande et on la ressortira en temps voulu. Lyon-Juventus Turin, c'est une affiche quand même à suivre, évidemment, sur RFI, l'affiche principale de la grande soirée Ligue des Champions de la Radio du Monde. Coup d'envoi 20h, temps universel. Mais n'oublions pas que l'hymne de la plus fameuse des compétitions de clubs, il retentira également en Espagne, au Santiago Bernabéu ce soir, à Madrid donc, Real Manchester City, autre huitième de finale aller, quel programme ? Duel de prétendants à la victoire finale, là on sera tous d'accord. Duel entre deux clubs qui incarnent de dynamique, on va dire, du football moderne. On a un historique d'un côté, un nouveau riche entre guillemets de l'autre. Et c'est aussi, surtout l'occasion de la première rencontre entre deux coachs qui font rêver autant que leurs équipes. Ils ont fait rêver en tant que joueurs, ils font rêver maintenant sur les bancs de touche. Deux entraîneurs à succès, le mot est faible. Zizou admire Pep et Pep admire Zizou.
C'est un plaisir et un honneur de revenir dans ce stade où j'ai gagné et perdu. Le Real de maintenant est un peu différent de celui que j'ai affronté comme joueur et entraîneur. Il est beaucoup plus agressif, solidaire, beaucoup plus combatif. Ces qualités-là, il ne les avait pas autant à l'époque. Ce qu'a fait Zidane en Coupe d'Europe, et je ne crois pas que ça va se répéter de sitôt. En tout cas, c'est très difficile à refaire. Tous les joueurs qui viennent ici savent que ne pas gagner la Ligue des Champions est presque un énorme échec. Ils ont démontré que dans cette compétition européenne, il n'y avait pas meilleur qu'eux. Et donc pour nous, c'est un superbe défi.
Ouais, l'hommage de Christophe Guardiola ou Pep joue ses jeux, je ne sais pas trop, l'entraîneur de Manchester City à Zidane, hommage à Zidane et au Real Madrid. Guardiola, ancien du Barça bien sûr, club avec lequel il a remporté 3 Ligues des Champions, une comme joueur, deux autres comme coach. Pour Zizou, c'est 4 coupes aux grandes oreilles, une sur le prêt, 3 sur le banc. Le duel Zidane-Guardiola, c'est vraiment l'un des événements de la soirée. Qu'est-ce que vous en pensez, mon cher Alejandro Valente ? Bonjour.
Bonjour.
Vous vous cachiez maintenant qu'on parle de Guardiola et maintenant que vous savez que nous allons parler du Barça, vous apparaissez.
Je ne me cache pas, je suis là. Qu'est-ce que j'en pense ? Alors,
oui,
je pense que
le duel, premier duel en tant que coach pour Zidane et Guardiola, ils se sont évidemment croisés en tant que joueur.
Bah, moi, je pense que c'est un duel entre un énorme coach comme Guardiola et un superbe meneur d'hommes comme Zidane. Donc, c'est pas forcément la même catégorie, mais les deux peuvent réussir. Et puis, entre deux équipes qui sont peut-être sur un bilan assez similaire. Finalement, les deux sont deuxièmes dans leur championnat avec un nombre de points assez équivalent. La différence, c'est que Manchester City a perdu déjà la course pour les titres parce que Liverpool fait une saison incroyable, alors que le Real est toujours dans le coup parce que Barcelone connaît aussi pas mal d'errements. Cela dit, je pense que City est totalement concentré sur cette Ligue des Champions. Ils ont vraiment envie. C'est la dernière occasion peut-être pour Guardiola, si jamais la suspension de City va jusqu'au bout à partir de l'année prochaine, alors que Zidane n'a pas caché en début de saison que son objectif numéro un, c'était la Liga. Cela dit, il ne va pas, sacrifier la Ligue des Champions facilement. Mais bon, il y a aussi un match dimanche contre Barcelone qui va peser dans la tête des joueurs madrilènes.
Donc, duel entre deux coachs extrêmement charismatiques, extrêmement appréciés et qui peuvent perdre très gros à l'issue de ce huitième de finale.
Ah oui, et côté Real, même il y a quelques minutes, vous parliez de l'Olympique Lyonnais avec ses semaines et ses mois à venir. Là, je pense qu'on va dire de la semaine quasi décisive, enfin en tout cas importante pour le Real avec ce huitième aller, avec ce classico face au Barça ce dimanche. Et puis de l'autre côté, City, Alejandro l'a très bien dit, c'est qu'à un moment donné, City va quasiment faire all-in au final, j'ai envie de dire, sur la Ligue des Champions. Elle va pas non plus totalement lâcher le championnat, hein, je suis pas en train de dire ça. Il y aura des moments symboliques, peut-être que lors du City-Liverpool, City voudra absolument battre Liverpool et empêcher cette invincibilité des Reds, par exemple, cette saison. Mais City sait que le championnat s'est terminé. City sait, au moment où nous parlons, que la saison prochaine et la saison d'après, il n'y aura pas de Coupe d'Europe, sauf si l'appel qui a été reçu officiellement aujourd'hui est finalement accepté. Mais voilà, City et Guardiola, c'est son moment pour pouvoir aussi dire à tout le monde, je peux gagner la Ligue des Champions sans le Barça, sans Messi, je peux le faire, j'ai pas réussi à le faire avec le Bayern, je pourrais le faire avec le Manchester City.
Philippe Doucet.
Oui, ce match aura un impact, évidemment, côté Manchester City, il y a un impact particulier. Même si il y a quelques chances que la sanction soit levée, je pense que les joueurs ne pensent pas à ça. Ils ne sont pas là à se dire.
C'est dans le cadre du fair play financier, je rappelle.
Oui, absolument. Il y a quelques chances que la sanction peut-être ne durera pas. Et puis, je ne pense pas que les joueurs pensent à ça en se disant l'année prochaine, je ne joue pas la Ligue des Champions. Ils ne pensent pas à ça parce qu'ils se disent, à la limite, ils se voient peut-être éventuellement ailleurs, si le cas échéant. Donc, je ne pense pas à ça. Par contre, oui, dans le contexte du club, côté nécessairement parano qu'on peut avoir dans ces circonstances-là, il y aura effectivement une mobilisation très forte. Le championnat est terminé, le championnat de City est terminé, ils seront deuxièmes, globalement, quoi qu'il arrive, ils seront deuxièmes cette saison. Donc, effectivement, cette année, plus particulièrement que d'habitude, jusqu'ici, Manchester City a mis beaucoup de foi à gagner le championnat. Je pense que cette année, ils sont un peu plus tournés effectivement vers cette Ligue des Champions qui, dans laquelle, pour l'instant, ils n'ont absolument rien réussi. On rappelle qu'ils ont fait
une demi-finale en 2016.
Ils ont fait une demi-finale à un moment où vous n'avez pas d'équipe, paradoxalement.
Ouais, c'est ça.
C'est-à-dire un moment à la fin d'une génération, quand l'équipe était très moyenne, ils avaient bénéficié d'un Paris Saint-Germain qui était passé à travers. Je ne sais plus qu'ils n'avaient pas éliminé du gros non plus en huitième. Ouais. Ils s'étaient glissés jusqu'en demi, mais... C'est pas le grand Manchester City qui a été en demi. Ce Manchester City qu'on considère comme une grande équipe, ça fait 3 ans qu'elle ne fait pas grand-chose en Coupe d'Europe malgré tout.
Et malheureuse l'année dernière,
parce que l'année dernière, par rapport à Tottenham, c'est inouï qu'il ne soit pas passé. Mais enfin bon,
c'était Pellegrini, donc pas Guardiola qui était sur le banc en 2007. Et ils avaient été éliminés par le Real Madrid. J'en reviens à mon duel d'entraîneur, Franck Simon.
Justement,
c'est la balle au bon.
J'écoutais ce que disait Alejandro, et c'est vrai que dans la tête de beaucoup d'observateurs et des supporters du football mondial, d'un côté, il y a Monsieur Pep Guardiola, considéré par tous, je crois, comme le meilleur technicien aujourd'hui. Et quand je dis technicien, je mettrai aussi tacticien, un vrai stratège, quelqu'un qui allie tous les aspects, qui a inventé, qui a régénéré aussi le jeu et le jeu offensif. Et de l'autre, il y a Zinedine Zidane, et comme l'a dit Alejandro, qui est plutôt le meneur d'hommes. C'est-à-dire que on lui reconnaît pas encore des qualités de stratège. Pour le coup, c'est vraiment intéressant cette dimension. On va avoir la chance de les suivre sur les deux rencontres, et je suis vraiment impatient de voir comment justement le Real va tenter de contourner ce truc-là, et puis de dire que on a aussi un technicien qui sait bien nous faire jouer et piéger un grand.
C'est un test pour la postérité entre guillemets de Zidane.
Oui, mais moi c'est terrifiant. Enfin terrifiant. Non, parce qu'au final on est tous d'accord. Je pense d'accord, mais c'est presque péjoratif la manière de qualifier Zinedine Zidane. D'un côté, vous avez un génie tactique, un génie technique et tout ce qu'on veut.
On peut pas dire le contraire.
C'est un meneur. Non, mais je dis même pas le contraire, justement. Ouais. Et c'est pour ça, et vous le dites aussi, ça va être son test. S'il réussit à passer Pep Guardiola, eh bien, votre génie tactique, technique, j'ai pu le battre. Ça sera aussi ça son message.
C'est-à-dire qu'il faut gagner combien de Ligue des Champions avant d'être considéré comme un
entraîneur. Il a quand même gagné 3 Ligue des Champions de suite.
Avant d'être
si vous en gagnez une de plus que Guardiola, a priori ça ne suffit pas dans l'esprit d'Alejandro Valente.
Il en faut 12 de suite. D'accord.
Il n'est qu'un meneur d'homme, Zidane, ou justement est-ce qu'il n'a pas les outils tactiques pour contrer Pep Guardiola?
C'est quelqu'un qui évidemment a grandi dans ce poste, c'est évident. Mais c'est vrai que souvent on a l'impression qu'on ne comprend pas très bien à quoi joue le Real Madrid. C'est une équipe qui n'a pas une image aussi accomplie que les équipes qu'a entraîné Pep Guardiola.
Image ou une identité ?
Et une identité, forcément. Mmh. C'est parfois une équipe qui veut être joueuse, parfois une équipe de contre.
Une équipe italienne.
C'est une équipe qui a beaucoup de
Zidane,
caractéristiques.
Culture italienne. Si. Culture d'entraîneur italienne. Zidane, moi je trouve que son équipe ressemble à quelque chose, au contraire. Oui. Mais quelque chose qui ne plaît pas forcément aux adeptes
qui
d'un autre football.
Qui est moins marqué que le Barça de Guardiola, qui avait une marque peut-être plus claire et peut-être plus inspirante.
Mais
pour aller dans le sens
faire les Italiens.
Pragmatique.
Mais pour aller dans le sens d'Alejandro.
Ils savent jouer, ils savent pas jouer.
On a vu beaucoup d'entraîneurs se réclamer de Guardiola. C'est une source d'inspiration. Revendiqué. Ouais, ouais. On entend moins de l'école Zidane.
C'est vrai qu'on ne l'a pas entendu.
Zidane, c'est plus récent que Guardiola aussi. Attendons peut-être quelques années, attendons voir peut-être 2-3 titres encore pour Zidane. Et là, on se dira, ce jeu, cette manière italienne, le terme a été utilisé, cette manière de contrer, cette manière de défendre, peut-être que finalement, ça va attirer des adeptes.
Mais je pense qu'Hugo a raison. Il n'y a pas dans la démarche de Zidane, il n'y a pas la volonté de dire j'ai inventé le football, je vais marquer mon époque à travers un système tactique ou autre. Il a été un très grand joueur, comme souvent les très grands joueurs, à part peut-être Johan Cruyff, qui est vraiment une exception dans l'histoire du football.
Les
grands joueurs ont souvent été, moi il me faut des bons joueurs, et puis voilà, et laisser jouer les joueurs et on va jouer au foot. Il n'y a que Johan Cruyff était comme ça aussi, mais... a donné une dimension particulière au type de football qu'il voulait jouer.
Une vraie recherche. Hein.
Même s'il n'avait pas la même rigueur tactique que Pep Guardiola, il était d'une essence quand même un peu plus joueuse que Guardiola ne l'est, malgré tout. Sans doute sa culture de grand joueur. Et je pense que Zidane ne cherchera pas ça. Il cherchera jamais ça. Il cherche d'abord dans sa personnalité, dans son style d'humilité ou autre. Il cherchera jamais à dire « moi j'ai inventé le football ». Jamais, jamais. Par contre, je trouve que dans sa sa gestion d'équipe, dans la manière dont il construit son travail. Je trouve que c'est très, toujours très, très habile. Là, on n'a pas loué la manière dont il a redressé petit à petit l'équipe cette année. Parce que c'est pas brillantissime.
Depuis quelques temps.
Puis c'est pas brillantissime. Mais mine de rien, il avait commencé sur une pente où on se disait, le Real, c'est parti comme l'année dernière.
On se disait même, Zidane va peut-être être débarqué.
On avait l'impression que le Real était parti pour faire une saison morne comme l'an dernier. Or, il a quand même largement redressé la chose en faisant des vrais choix d'hommes, des vrais changements qui montent. Il fait vraiment pas n'importe quoi. Il fait des choses peut-être simples, mais il les fait très bien.
Franck Simon.
Oui, je veux revenir sur les propos d'Alejandro. J'ai bien compris qu'il souhaitait...
Le sujet du débat, c'est...
Non, mais Alejandro, j'ai bien compris qu'Alejandro ne cherchait pas à minorer, en fait, les qualités de... Voilà, parce que
Les titres parlent pour lui.
C'est même pas sur les titres, c'est sur l'intitulé, c'est-à-dire le meneur d'hommes, la gestion humaine. Mais c'est vrai que c'est considérable, parce que quand on regarde l'effectif et les gars qui doivent lui aussi gérer...
Faut les gérer, oui.
Il y a quand même un paquet d'égo, et il a réussi, justement, et ce que vous disiez, messieurs, à l'instant, il a réussi quand même à le gérer pas trop mal pour pouvoir avoir un vestiaire, je pense, où je pense que ça ne rombit pas de gros soucis, par exemple. Alors que Guardiola, lui, sur la palette, il maîtrise, je pense, tous ces aspects-là. Alors sans doute que Zidane doit encore ajouter à sa palette personnelle d'autres choses, mais ça n'enlève rien parce qu'effectivement, pour le coup, les trophées, il les a pris.
Après, Guardiola prend parfois plus de risques alors que Zidane est quelqu'un qui est dans l'efficacité. C'est la vérité. Donc parfois, c'est plus efficace.
Et c'est là où ça deviendra intéressant ce soir quand on voit la défense de City. Alors certes, Guardiola déjà est joueur.
Qui a progressé quand même.
Qui a certes progressé. C'est vrai. Il a progressé. Mais la défense de City, elle n'a pas forcément progressé. Ces dernières semaines, heureusement qu'Emery que Laporte est de retour quand même. Mais ça reste quand même une formation qui concède beaucoup d'opportunités face à l'attaque du Real. Face à un Karim Benzema qui lui aussi veut peut-être montrer que sans Cristiano Ronaldo, je peux aussi pourquoi pas gagner une Ligue des Champions. J'ai un peu peur à ce niveau-là pour la défense de Pep Guardiola.
Une donnée peut-être intéressante, c'est que ça fait quand même 2 ans que le Real Madrid n'a pas gagné un match des Ligues des Champions à domicile à Bernabéu. Donc la fameuse place forte n'est plus vraiment une place forte. Hein. Rappelez-vous, l'année dernière, 4-1 face à l'Ajax.
Mais des matchs éliminatoires, vous voulez dire?
Oui, des matchs éliminatoires, oui.
Il y en a eu un depuis 2 ans.
Ah non, il y a eu la Juve, perdu 3-1.
Ah, d'accord.
Et avant cela, il y avait eu les matchs nuls contre le Bayern de 2.
Oui.
Donc,
et en 8e, ils n'avaient pas gagné non plus à domicile. Si, contre le PSG.
Ils avaient gagné contre le PSG, donc ça remonte à 2 ans.
Ah, d'accord.
Voilà, bon, c'était à 8e.
Il y a beaucoup d'échecs malgré tout.
Oui, 3 matchs, oui, d'accord.
Après,
mais c'est pas rien quand même.
Non, mais j'aime bien la présentation statistique dramatique. En fait, oui, il y a 3 matchs.
Et après, 3 matchs, ils ont pas gagné.
Ça fait 2 ans.
Et la fameuse défaite face à la Juve, 3-1, à l'aller, il y avait eu 3-0 quand même. Donc la Juve et le Real, d'ailleurs, cette année, avaient gagné quand même la Champions League.
Oui, bien sûr.
Donc bon, on verra.
Bon, le débat portait pas vraiment sur les qualités du Real, elles sont incontestables. Juste un dernier mot sur Zidane Guardiola. Zidane, il est arrivé en Espagne en tant que joueur en 2001 et Guardiola, il a quitté l'Espagne en tant que joueur en 2001.
Croisé, hein.
Du coup, pas de classico avec les deux sur la
sélection qu'un club finalement, je crois.
Oui, France-Espagne.
Encore pas souvent.
L'Euro 2000.
Oui, l'Euro 2000 avec un coup franc de Zidane notamment pour la victoire et la qualification des Bleus.
Non,
dans le temps réglementaire.
Ah oui, l'Espagne rate un pénalty.
Il y a une photo, effectivement, dans le journal L'Équipe ce matin.
Victor, de belles photos.
D'un Guardiola avec son numéro 4 et encore quelques cheveux qui poursuit un Zidane avec son numéro 10. Son numéro 10 et qui a également quelques cheveux, un peu plus que vous.
c'est pas difficile. Hein.
On rappelle les rendez-vous.
Affûté, hein,
vous n'avez pas osé dire plus que le réfé, hein, vous avez visé Franck.
Non,
hein.
Ça va, je l'ai suffisamment taquiné.
Ils sont affûtés,
reste réfé.
Mais pas attifés. Nuance.
Pas mal.
Allez, on rappelle les rendez-vous. Lyon, Juventus, Turin, Real Madrid, Manchester City. C'est la fin des 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Coup d'envoi 20h, temps universel. 2 chocs à suivre sur RFI. Enfin, surtout Lyon, Juventus, soyez au rendez-vous.
Zielinski verso il centro, riceve Mertens in tiro, gol!
Il va falloir accélérer les
Bon ballon de Busquets, Griezmann, quelle belle action collective, le coup de grisou dans le San Paolo.
Joli jeu de mots de la part de notre confrère commentateur à la télévision française. Le Barça, sauvé, oui, on peut le dire, par Antoine Griezmann. Il serait fastidieux d'énumérer tous les problèmes récents au sein du club catalan, en coulisses comme sur le terrain. Mais Messi et ses coéquipiers se sont tout de même sortis avec les honneurs d'un drôle de piège hier. Match nul un partout sur le terrain de Naples. C'est pas mal sur le plan du résultat. Sur le plan du jeu, il y aura peut-être à dire. Une première période compliquée, notamment, mon cher Alejandro Valente, vous pouvez au moins nous concéder ça. Ils ont été bien pris, vos Catalans, par... La défense oui. napolitaine défense, qui a joué un peu contre nature.
Une défense très fermée, c'est clair. Donc, effectivement, et Barcelone, il faut comprendre que Quique Setién, ce pauvre Quique Setién qui est arrivé avec beaucoup d'envie de changer des choses, finalement se retrouve que Napoléon à la retraite en Russie en train de compter ses joueurs, voir s'il va pouvoir vraiment aligner une équipe parce qu'il y a tellement de forfaits et tellement d'absences. Aujourd'hui, il joue avec ce qu'il a et c'est pas beaucoup.
Et la situation ne va pas s'arranger puisque
ça s'arrange pas parce qu'il y a Vidal expulsé, Busquets suspendu, plus tous les blessés. Sergi Roberto peut-être va revenir, Jordi Alba peut-être va revenir et ce serait bien parce que Junior qui le remplace n'est pas vraiment la trouvaille du siècle. C'est le premier but. On les donne à Mertens, mais en partie, c'est lui aussi. Et voilà. Et Barcelone, avec tout ça, finalement, on s'est dit, c'est un mode survie. On s'est dit, il va craquer. Finalement, il est premier de la Liga. Le 1 partout à Naples, c'est plutôt un bon résultat. Ah oui. Donc, il s'en sort.
Mais... Oui, c'est le paradoxe. C'est pas le meilleur Barça sur et en dehors du terrain. Et pourtant... Pour l'instant, c'est bien parti dans les deux compétitions qui restent à disputer.
Ça tient, mais ça tient un petit peu comme l'an dernier, où il y avait plus de sécurité. L'équipe avait plus de sécurité, mais ne brillait déjà pas. Je ne suis pas surpris qu'elle ne soit pas plus brillante cette année. Finalement, il n'y avait pas d'éléments rationnels qui pourrait lui redonner l'allant qu'elle avait.
Même pas un certain Antoine Griezmann.
Non, la preuve, oui, on aurait pu penser, mais comme en plus Suarez a fait vraiment une demi-saison et encore relativement moyenne, donc l'apport de Griezmann, il est limité par une équipe qui est limitée dans le haut. Hein, faut pas non plus le niveau moyen du Barça reste quand même très bon, mais on ne voit pas une équipe qui a le potentiel pour gagner la Ligue des Champions, pas du tout.
Celle-ci aussi, on la garde.
La saison dernière, il y avait eu quand même demi-finale pour le Barça, mais dites-moi si je me trompe, l'année dernière, déjà, le Barça se reposait essentiellement sur Lionel Messi et sur ses exploits exceptionnels. Alors, vous allez me dire, on a l'impression de se répéter, mais c'est encore plus visible et la saison dernière et là cette saison, le quadruplé qu'on a vu ce week-end pour Messi face à Eibar. Et là, hier, on avait un Messi en danse au Moncler qui était pas exceptionnel, qui a fait très peu de choses ou réussi très peu de choses. Et comme par dès qu'il réussit moins de choses, ses coéquipiers aussi réussissent moins de choses. Ne font pas les bons appels.
Sans lui, il n'y a pas d'accélération possible.
Mais c'est ça. Donc,
accélération possible, c'est lui.
Et c'est bien le problème. C'est que
quand tu mets quatre adversaires en face, tout d'un coup, ça devient plus compliqué.
Et la Messi-dépendance, on l'a encore plus vu hier.
Mais malgré ce constat.
Que les Barcelonais ont profité du voyage à Naples pour aller prier San Gennaro, cher à Maradona, pour que Messi ne se blesse pas. Parce qu'en début de match, on était un petit peu inquiets. D'ailleurs, il a fait peu de courses. On a senti qu'il touchait longtemps sa cuisse. Et qu'il avait l'air soucieux. Et donc, ça, c'est un risque énorme parce que sans Messi, cette équipe de Barcelone est vraiment une grande difficulté.
Mais pour l'instant, Messi est là et ce match nul un partout, c'est quand même de bon augure avant le match retour. C'est une banalité là ce que je dis.
C'est ça le résultat qu'il faut.
Moi, je dis aussi que le Napoli était privé d'un double cas, Kalidou Koulibaly aussi. Il ne faut pas oublier. C'est pas rien en fait dans la solidité dans la construction même du jeu. Et ceux qui étaient là à sa place, ont bien fait leur travail. C'est vrai que c'est bien payé, je trouve, moi, pour ce Barça.
En tout cas, Gattuso. Gattuso, Napoli, c'est vrai qu'à sa venue sur le bord du Napoli, on se disait qu'est-ce qu'il va faire avec cette équipe de Naples, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Alors, on n'est pas en train de dire que le jeu napolitain est transcendant, loin de là. Mais hier, au moins, c'était cohérent. C'était
une équipe à domicile qui défend à 9.
En face, on a
bien défendu.
Ils ont joué et puis ils sont partis en compte de manière
ils ont fait le match de Lyon. Match de Lyon l'année dernière et comme le Barça n'est pas au-dessus, ça fait nul à l'aller et ça fait défaite au retour.
Il y avait également un match en Angleterre hier. Certainly.
Lewandowski pulls it back and there's the goal, which is smashed in by Serge Gnabry. Love scoring goals in London in the Champions League, the German international.
Ça va trop vite pour Chelsea.
Oh là 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 là.
Chelsea, Serge Gnabry, l'ancien d'Arsenal, il est en train de laminer Chelsea.
Okay, this bursting into action again, leaving Christensen for dead. Lewandowski waiting in the middle, tapping. Robert Lewandowski. That's 39 goals this season for Bayern Munich, hitman.
Oh, le Bayern en démonstration ici à Chelsea, le Bayern presque déjà qualifié pour les quarts de finale.
League of leaders, Chelsea 0, Bayern Munich 3. Frank Lampard's face tells the story.
Oui, c'est vrai que la tête de Lampard en disait long. L'entraîneur de Chelsea a vu son équipe écrasée à la maison par un rouleau compresseur bavarois. Selman Gali, Gnabry par deux fois, Lewandowski ont été les buteurs du Bayern Munich à Stamford Bridge. Succès 3-0 quand même sur le terrain des Blues de Chelsea pour le Bayern. Et c'est peut-être la plus belle démonstration de ces huitièmes de finale aller de Ligue des Champions. Vous avez été surpris par le niveau du Bayern ou bien par le niveau des Blues de Chelsea?
Par l'écart et donc par le niveau de Chelsea et par l'impressionnant niveau du Bayern. Philippe Doucet, quand on écoutait les buts, disait que ce Bayern est une machine. Enfin, que c'est vraiment impressionnant de voir un tel Bayern. C'est vrai que on est d'accord, hein, c'était ça, Philippe.
Oui, je l'ai pas dit, mais c'était
c'est
ça.
C'est ça. J'ai un peu dissipé.
En cette fin d'émission, j'ai un peu dissipé.
J'avais plus le mot précis.
Doucet, Bolgari.
Je le trouvais plus le mot.
Un petit peu dissipé.
Mais plus sérieusement, c'est vrai que ce Bayern impressionnant. Et il n'y a pas eu de match, voilà, c'était le terme. Et un tel écart, je le visualisais pas. Une défense de Chelsea qui est tombée sur Lewandowski et Gnabry qui ont été hors normes les deux à se trouver dans tous les espaces. Enfin, il y a un écart. À un moment, je me suis dit, mais ça peut pas être un huitième de finale de Ligue des Champions.
Et alors, ça nous rappelle quoi? Que Chelsea est, on le sait, dans une saison de transition, encore loin de son meilleur niveau, enfin, du niveau qu'il a pu atteindre il y a quelques années. Ou est-ce que ça nous rappelle tout simplement que le Bayern, qui est également en transition, reste l'un des favoris pour cette victoire en Ligue des Champions? Vous qui avez la boule de cristal sur qui gagne ou qui ne gagne pas la Ligue des Champions.
Je ne l'ai pas. Par contre, ce qu'on peut observer quand même cette année, c'est que, à part en France, les championnats sont à peu près intéressants partout. Bon, il y a l'Angleterre aussi, qui, avec l'énigme Liverpool. L'énigme à ce point-là, je veux dire, en nombre de victoires, c'est tellement considérable que c'est une véritable énigme, une anomalie statistique. Je veux dire, arriver à faire ça en Angleterre, c'est inouï. Mais en dehors de ces championnats-là, et le Bayern est accroché, le Barça et Real sont vraiment accrochés. Ils sont ni l'un ni l'autre exceptionnels, ni l'un ni l'autre complètement décrochés par rapport à la suite de la troupe. La Juve est accrochée. Et pour autant, on a l'impression que finalement, ces équipes-là, elles ont toujours cette valeur et cette capacité d'aller sortir des gros matchs au moment où il faut. Parce que finalement, le championnat est devenu presque une routine pour elles. Je ne parle pas du Barça ou du Real, parce qu'ils vont finir par se battre quand même à un moment ou un autre pour ce titre. Ils vont pas reculer toute l'année. Il y a bien un moment où ils vont finir par se battre pour aller vers le haut. Mais la Juve et le Bayern, on sent qu'ils en ont encore largement sous la semelle et sont capables de hausser leur niveau. Et là, le Bayern l'a montré de manière très, très impressionnante hier. Alors qu'on avait... Moi, j'avais vu tous les derniers matchs du Bayern. J'avais vraiment l'impression que ça ronronnait sérieusement, sans savoir justement, j'avais un doute sur est-ce qu'ils sont vraiment dans le coup, est-ce qu'ils s'intéressent réellement à la Bundesliga, est-ce qu'ils sont à fond, ou est-ce que cette année ils sont beaucoup plus limités, parce qu'effectivement quand on regarde les noms, c'est pas toujours l'équipe qui impressionne le plus. Mais hier, elle était très impressionnante, très impressionnante.
Allez Franck,
un tour de chauffe pour le Bayern, les statistiques sont là, 99% de chance de se qualifier après un 3-0 à l'extérieur.
Merci Franck Simon, merci Philippe Doucet, merci Selim Bongali, merci Alejandro Valente d'avoir participé à ce numéro de Radio Foot. On revient demain bien sûr, mais avant la grande soirée foot sur RFI, Lyon-Juventus, Turin, Real, Manchester City, qu'on suivra plus en fil rouge. Soyez au rendez-vous. Excellente soirée sur les antennes de la Radio du Monde.
Ce mercredi, vivez sur